Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission un peu spéciale puisque nous sommes accueillis dans un endroit absolument somptueux au cœur de la ville de Luxembourg et nous sommes en compagnie du maître des lieux, Marcel Gueras. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir...
Bienvenue à Luxembourg.
Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation, même si nous sommes chez vous, pour cet entretien exclusif dans le cadre de notre émission consacrée à la grande région transfrontalière et notamment au tourisme. Vous avez la gentillesse de nous offrir de votre temps et votre hospitalité dans l'un de vos lieux de travail. Nous sommes ici à l'hôtel Le Parc Bel Air. Si vous le permettez, quelques mots, cher monsieur, pour mieux vous connaître et permettre à nos auditeurs de bien vous situer. Alors vous êtes ce que l'on pourrait appeler un jeune retraité très actif qui, après une carrière entrepreneuriale plus que bien remplie, s'est lancé dans une aventure humaine et familiale extraordinaire. Je fais un arrêt sur image en mars 1993 où, sans aucune expérience de l'hôtellerie, vous prenez la décision de rompre votre plan épargne, d'engager toutes vos économies, votre temps, votre énergie, l'entièreté de vos ressources. Au passage, vous embarquez aussi votre frère, qui s'appelle Raymond, dans un projet assez fou qui a fêté son quart de siècle en 2018. Et vous n'y allez pas par quatre chemins. Votre propre maison familiale et les quelques maisons que vous aviez acquises au fil des années, ici même où vous nous recevez très gentiment, avenue du 10 septembre, vous en faites, pour ainsi dire, table rase. Vous reliez les édifices ensemble afin de créer votre premier hôtel, le Parc Bel Air. Et c'est ainsi que naît en même temps le premier groupe hôtelier luxembourgeois. Marcel Gueras, il faut l'avouer, tout ceci n'est pas complètement le fruit du hasard. Vous aviez toujours la fibre entrepreneuriale chevillée au corps. Dès 1965, à l'âge de 28 ans, vous créez ce qui aujourd'hui serait considéré comme une start-up, la Continental SA, qui employait 85 personnes à Bacharach, au sud du pays. Ingénieur chimiste de formation, vous avez ainsi créé une usine de fabrication de produits chimiques pour un grand groupe luxembourgo-américain. Par la suite, des filiales se sont créées, telles que la Taillerie de Pierre à Bacharach, qui existe toujours, et la Continental à Domeldange. La société a été reprise 10 ans plus tard par un groupe allemand dans le cadre d'une fusion. Je ne veux pas m'étendre, mais ce rapide flashback pour montrer que vous avez passé votre vie à entreprendre et à donner vie à de nouvelles activités et à donner de vous-même. Au cours des 25 dernières années, le groupe Gueras s'est développé et a intégré d'autres propriétés à Luxembourg-Ville. On va en parler. Et tout en continuant ce développement, votre groupe a toujours su conserver les racines et les mêmes valeurs qu'il y a 27 ans maintenant, à savoir une organisation familiale. Je précise que la notion de famille chez vous s'étend à toutes celles et ceux qui ont fait et qui font aujourd'hui encore partie du groupe, et ce, depuis 2 décennies et demie. Vous le dites souvent, je vous cite, la vision et la mise en œuvre de cet esprit entrepreneurial présent dès la fondation du groupe se perpétue d'année en année et de force en force. Fin de citation. Une première réaction à ces propos, Marcel Gueras, j'espère que je ne vous ai pas trop écorné dans votre profil.
Non, moi j'étais une entreprise familiale, c'était à ce moment-là, c'était il y a une trentaine d'années, où effectivement il fallait faire un choix. Ou bien on part à la retraite, on commence à jouer au golf comme beaucoup de gens le font, ou on fait quelque chose de raisonnable. On détruit ses propres maisons dans lesquelles on habite et on se retrouve, au fait, ce qu'on n'avait pas prévu, on se retrouve devant un trou parce que ce qui rapportait de l'argent, le loyer des maisons, ça ne rapporte plus rien parce qu'elles ne sont plus là. Et on redémarre à zéro.
À zéro.
Vraiment zéro. C'est un lien avec ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est aussi de nouveau dans une situation un peu zéro.
On va y revenir. Alors déjà, j'ai envie de vous demander tout simplement, j'aurais pu le faire dès le démarrage, comment vous allez ?
Ah, moi, je suis en pleine forme. On est tous... vous voyez, on a aussi peut-être profité de cette période où on s'occupe un peu plus de la santé, on a beaucoup plus le temps, on est beaucoup seul, on s'occupe de la santé, de la nourriture... on s'occupe de ne pas consommer d'alcool ou des choses comme ça. On s'occupe de sa santé.
Alors justement, on va parler un petit peu de cette actualité qui est encore très présente avec la pandémie que nous avons toutes et tous vécue. Je vais à la fois interroger le dirigeant et le citoyen. Nous sortons doucement de cette période critique. Tout n'est pas encore revenu à la normale. Comment est-ce que vous avez vécu cette crise? Comment votre groupe a-t-il été impacté?
Disons, le premier jour ou les premières semaines où on a vu que ça se passait, C'était une douche froide un peu, parce qu'effectivement, je peux vous montrer, j'ai des chiffres que je viens encore d'avoir aujourd'hui, parce que nous devons remettre aujourd'hui un dossier à l'État pour montrer quel était le résultat sur 3 mois de chiffre d'affaires en 2019 et quel était sur la même période le chiffre d'affaires en 2020. J'ai les chiffres ici, c'est effroyant.
Hein. Vous pouvez nous en donner un?
C'est
sans trahir de secret, bien sûr, mais...
Non. Moi, je peux vous dire des chiffres concrets. Par exemple, nous avons, pour le mois de juin, ce qui est normalement un très bon mois, le groupe, on a dans le budget 1,4 million de chiffre d'affaires, ce qui correspond à l'année passée. Ce qui correspond, c'est un peu plus élevé qu'en 2018. Et cette année-ci, on va faire 185 000 euros, comparé à 1,4 million.
Voilà, bien sûr.
Alors, on peut s'imaginer, toujours avec le même effectif, on a un effectif aujourd'hui de 139 personnes.
J'imagine évidemment les conséquences que ça peut avoir. Je voudrais notamment vous poser la question de savoir quelles sont les mesures que vous avez été obligé de prendre, parfois peut-être à contre-cœur, des mesures contraignantes par rapport à vos équipes, dont on sait, je peux témoigner de quelques conversations que j'ai pu avoir avec quelques-uns et quelques-unes de vos collaborateurs et collaboratrices. J'ai dit, c'est l'esprit de famille. Quelles mesures avez-vous dû prendre ?
Ben, la première mesure qu'on a fait, c'est qu'on s'est aligné. L'État a demandé des hôteliers qui étaient volontaires à accepter le logement d'infirmiers, de frontaliers, de médecins ou de pilotes de cargo luxe. Et nous, on a gardé 2 hôtels ouverts pour ces gens-là. Ça veut dire qu'on a mis en place une équipe réception, cuisine, chambre, nettoyage chambre pour accueillir ces gens. On en a eu pendant toute cette période de crise, on a eu une vingtaine, 25 personnes. C'était des infirmiers, c'était des infirmières, c'était des pilotes de cargo luxe, des pilotes italiens qui viennent au Luxembourg. Ça, on a fait ça. On n'a pas calculé combien ça nous a coûté. On aurait probablement mieux fait de mettre tout le monde au chômage partiel.
Donc c'était un élan de solidarité. C'était évident qu'il fallait contribuer à l'effort national.
Oui. Parce qu'on avait effectivement 0 client qui venait de l'extérieur. Il y avait 0 client qui venait manger de chez nous parce que tout le monde disait rester à la maison.
Du coup, ça représente combien de personnes que vous avez dû mettre en chômage partiel total?
À un moment, sur les 139, il y en a qui sont partis en congé familial, beaucoup. D'accord. Tous ceux qui ont pu aller en congé familial. Il y en a qui sont partis en congé normal, qu'on a dû payer normalement. Il y en a en congé... Bon, il y avait sûrement une bonne centaine qui étaient en congé chômage partiel.
Est-ce qu'il y a des métiers chez vous qui ont été exécutés et qui continuent peut-être de l'être aujourd'hui en télétravail?
Heureusement, le télétravail, c'est quelque chose que les gens m'avaient demandé déjà avant.
D'accord.
Sauf que moi, j'étais toujours d'avis, on est une entreprise, l'hôtellerie, c'est une entreprise de contact avec les gens. Ce n'est pas une banque qu'on peut diriger à distance.
Il faut accueillir les gens.
L'hôtellerie, il faut le contact avec les personnes. Même dans un département sales, je dis même dans la comptabilité, parce que celui qui travaille dans la comptabilité et il ne sait pas comment est-ce qu'on gère les stocks, est-ce que les stocks sont bien gérés, les salaires, il faut avoir un contact. Dans l'hôtellerie, il y a peu de moyens de travailler en télétravail. Ce qui n'empêche que, vu cette expérience, on a quand même pu opérer certains services en télétravail. Par exemple, des réservations pour l'année prochaine. On a des gens qui habitent à Saint-Bruc, qui s'occupent de ce travail normalement. Et on les a équipés, on a équipé tout le monde en ordinateur, en informatique. C'est pour ça qu'on a un informaticien, Eric, que vous avez vu.
Que nous avons croisé.
On a depuis toujours un informaticien qui est chez la perle. Ils sont d'ailleurs tous ces perles.
On leur répétera.
Oui, ils le savent. Et ça nous a permis de rester en contact avec nos clients. Alors, on a aussi, par exemple, on a un département qui s'appelle Revenue Management. où on contrôle tous les jours ce qui se passe en Europe, ce qui se passe au Luxembourg, dans le mouvement des locations de chambres, les tarifs qui se font. Ça aussi, ça a marché non-stop.
Alors, on va en revenir à la situation actuelle. On l'a dit, on commence à retrouver un sentiment de normalité. Mais je pense que l'un de vos enjeux, c'est de rassurer la clientèle. C'est pas tout de dire « revenez ». On vous fait peut-être même des offres pour vous inciter à venir. Il faudra aussi la rassurer. Comment ça se passe? Quels sont les messages que vous passez? Quelles sont les mesures que vous prenez pour accélérer cette reprise?
Ce n'est pas évident parce que la plupart des gens qui reviennent... vous avez une partie des gens qui sont très sensibles. Les gens du quartier, par exemple. On a une clientèle quartier, ici à Ventoux-en-Belair. C'est des gens d'un certain âge, des gens qui sont ici, qui veulent être rassurés sur la sécurité, sur la distanciation, sur les masques et tout ça. Vous avez les clients de l'hôtel, qui eux, en général, ils viennent en voiture, en avion, ou maintenant il y en a aussi de nouveaux qui viennent en avion. C'est un peu plus relax. C'est des hommes d'affaires qui circulent. Mais nous, on a mis ça aussi en avant, et c'est aussi peut-être un avantage qu'on a appris avec cette pandémie, c'est qu'on a modifié certaines façons d'agir. Le buffet, par exemple, le buffet du petit-déjeuner, c'était quelque chose de monstrueux, mais qui, à la fin du compte, permettait d'avoir beaucoup de gaspillage. Et on a appris par cette période que le gaspillage, il faut l'éviter. C'est ce qu'on a appris par cette pandémie. Ce que les gens ont acheté dans leur frigo, ils ont essayé à le consommer. Alors, ce que nous aussi, à l'avenir, au petit déjeuner, on va leur dire aux gens, mais commandez ce que vous voulez manger. Et on va vous donner ce qu'il y a de mieux.
Une démarche responsable à la fois de l'hôtel, mais aussi un apprentissage pour la clientèle.
Un apprentissage. Et là, c'est ce que je voulais vous dire. Cet apprentissage n'est pas simple. Parfois, les clients, c'est une formation pour notre personnel qui doivent expliquer aux clients le soir, quand il arrive, écoute, nous, on aimerait bien savoir ce que vous voulez avoir, parce que comme ça, on évite le gaspillage. Vous aurez exactement ce que vous voulez. Vous payez aussi seulement ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de payer 20 euros ou 25 euros et vous consommez peut-être seulement un croissant et un café. Et vous serez malheureux parce que vous saviez que vous avez trop payé. Mais si vous voulez vraiment seulement un café et un croissant, ben vous allez payer un café et un croissant. C'est nouveau. Mais nous, d'un autre côté, à la fin de l'année, on sera à égalité parce qu'au lieu d'acheter tous les jours 50 croissants et en jeter peut-être 15, on ne va plus en jeter.
Toute crise est porteuse d'espoir. Vous êtes, Monsieur Guérès, un dirigeant lucide. Comment sortir concrètement, positivement de cette période quand même vraiment atypique? D'aucuns espèrent un monde d'après différent du monde d'avant et forcément meilleur. Enfin, on peut l'imaginer. Comment le voyez-vous, vous-même, ce monde d'après?
Vous l'avez cité tout à l'heure, je suis de profession pas hôtelier ni cuisinier, pas du tout ça. Je suis vraiment... J'ai créé des sociétés. Pour moi, c'est les chiffres qui comptent. Il faut toujours discuter avec les gens. Ceux qui sont là, il faut discuter avec les gens. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut leur montrer ce qui se passe. La première chose qu'on a fait, on a fait un bilan 2021. Je vais vous donner ça, à vous deux. Vous pouvez lire une fois. Pour moi, ce n'est pas compliqué, parce que pour les gens, il ne faut pas non plus faire 10 pages. Une page, tout est là-dessus. Et vous allez voir le résultat total sur une page d'INA 4 2018-2019, notre budget 2020, budget 2020, et vous allez voir mon budget 2021, que j'ai discuté avec mes responsables hébergement, restaurant, avec chaque responsable, parce que si vous avez un responsable d'un restaurant où vous avez peut-être la moitié des clients le soir qui sont des clients d'hôtel, vous allez peut-être perdre cela à 20 ou 30 ou 40 %. Si vous avez un restaurant qui est uniquement axé sur la clientèle du quartier, vous allez peut-être perdre 10 ou 20 % des clients, parce que les autres vont toujours revenir. Ça veut dire qu'on a mis ça en place et on a trouvé un bilan 2021 avec les coûts et tout. Je vais vous le remettre Et suite à ça, vous avez aussi un document pour aller voir le banquier. Et ce que je vous ai dit, à ce moment-là, vous ne paniquez pas, vous êtes tranquille.
Alors, je m'adresse aux compétiteurs, parce qu'on a l'impression là que vous êtes au combat. Vous êtes un peu resté compétiteur. Je tiens à rappeler que vous étiez un grand champion de natation.
Ah oui.
Il y a quelques années, à peine.
Ça, c'est très important.
Un sport exigeant, s'il en est.
Oui.
L'un de vos leitmotivs est qu'il faut se remettre en question tout le temps pour espérer durer. Vous le dites, je vous ai lu ici ou là. Du coup, cette posture se prête à merveille à l'époque que nous vivons. Vous avez dit tout à l'heure, on redémarre de zéro. Quelque part, ça vous plaît un petit peu, non?
Ah, c'est épatant. Je vous dis, c'est excitant. Moi, je pense que c'est un des meilleurs moments que j'ai parce que, tout d'abord, parce qu'on a bien travaillé les années avant. Il ne faut pas que vous allez le voir, l'année avant, nous avons fait un EBITDA de 20%. Nous avons un EBITDA. Nous avons fait un résultat impôt revenu de 10%, en sachant que nous faisons un chiffre d'affaires de 13,5 millions. Alors, ça veut dire qu'on a créé des réserves. Hein. On a payé des impôts, mais on peut aussi, avec ce qu'on gagne, on peut aussi investir. Même maintenant, aujourd'hui, nous investissons, nous climatisons un hôtel, nous faisons tout plein d'investissements, même aujourd'hui. C'est ce qui est très important.
Monsieur Guérez, est-ce qu'une entreprise familiale comme la vôtre dispose d'atouts différents et peut-être plus performants qu'une entreprise plus classique pour traverser ce genre de crise que nous venons de vivre, pour créer peut-être cet esprit de résilience dont nous parlons tous, mais dont nous avons vraiment besoin?
Moi, je dirais un grand secret, une grande facilité pour moi. Je l'ai encore dit hier. Moi, je suis en général tout seul ici. Mais tout le monde sait que je suis là. Et on a une structure qui est parfois difficile à avaler aussi, par exemple, par des ministères ou par des règlements. Parce qu'on a une structure, différents établissements opérationnels, où vraiment il n'y a que des cuisiniers ou que des serveurs. Et nous avons deux divisions qui sont administratives et qui sont là pour tout le monde. Et dans cette société administrative, vous avez ressources humaines, département technique avec 6 personnes. Nous avons comptabilité, administration générale. Nous avons, et ça, c'est là pour toutes les entreprises. Ça veut dire... Une entreprise opérationnelle comme ici l'hôtel Parc Balaire, il n'a pas de directeur, il n'a rien du tout. Il a des réceptionnistes, il a des serveurs, il a des cuisiniers. Et ça, c'est un atout énorme. Vous pouvez à tout moment, vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'occupe. Ici, nous, on a tout fait en peinture ici. Nous, on fait tout.
Finalement, qu'est-ce que cette crise vous aura appris, à vous peut-être personnellement, mais globalement à votre collectif?
C'est d'un très mot. Simple. C'est très simple. Ça fait des années... Non, je prends seulement un exemple.
S'il vous plaît.
Le télétravail, c'est une bonne expérience. Parce qu'à la fin du compte, on a quand même prouvé que certains travaux peuvent quand même aussi, à l'avenir, se faire en télétravail. D'accord. Ça nous aide beaucoup. Deuxièmement, nous avons eu l'occasion d'apprendre à nos gens qui sont quand même très sensibles à préserver leur job, à les faire comprendre de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais compris avant, d'être plus flexible, d'être plus disponible. Aujourd'hui, si on dit, et d'être prêt, par exemple, à un réceptionniste, de donner un coup de main, parfois au bar, même si c'est seulement pour dire bonjour à celui au bar, il n'a pas besoin de faire des cafés. Flexible, la disponibilité, c'est quelque chose qui s'est mis en place parce que tout d'un coup, les gens sachant, hop, les temps sont plus difficiles, maintenant on va y aller.
On se serre les coudes.
Et tout le monde fait le jeu. Tout le monde fait le jeu.
Ben voilà
ça, c'est vraiment une expérience fantastique.
Voilà une bonne nouvelle de cette crise. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité Marcel Guérez ici à Luxembourg pour la suite de notre entretien. Merci.
Très bien. C'est super. On va faire une partie. Tenez juste le micro un tout petit peu plus près.
Mais ça va.
C'est clair.
Je surveille.
Donc, nous retrouvons M. Guérez.
Oui, tout à fait.
De temps en temps. temps en temps aussi que vous dites qu'elle passe. Ça va, les deux familles, très bien, impeccable. Très intéressant. Très bien. Et on continue sur le rythme. On y va.
Attendez, je vous dis encore.
Je laisse courir.
Oui, je crois. Ouais.
Mais vos chiffres sont impressionnants quand même. Hein. Entre 1,4 million et 185 000, il va quand même falloir.
Moi, je pense qu'il faut aussi transmettre le message aux gens qu'il y a de l'avenir. Que ça bouge, que ça reste. C'est pour ça qu'il faut aussi rester avec investissement. Les gens sont venus me demander, Monsieur Gorosz, je suppose que maintenant il faut stopper. On avait encore une commande, commande de climatiseurs en route. Est-ce qu'on stoppe ou pas stoppe? J'ai dit non.
Je vous propose qu'on attaque tout de suite la deuxième partie, parce qu'après vous allez dire des choses que vous ne retirez pas après. Hein, parce que comme ça, c'est très bon. On y va. Allez.
On se retrouve avec notre invité d'honneur, Marcel Gorosz, le grand patron de la chaîne Gorosz Group Luxembourg. Monsieur Gorosz, même si vous avez une clientèle très variée, et notamment professionnelle, bien sûr, vous êtes surtout au cœur d'un sujet qui est le tourisme. Comment vous voyez la situation pour vous-même et plus globalement dans votre beau pays qui est le Grand-Duché de Luxembourg?
En ce qui me concerne moi-même, nous avons deux sortes de tourisme dans nos établissements. Avant tout, notre hôtel ici, où tous les hôtels se trouvent, nous sommes d'abord des Luxembourgeois. Nous sommes dans un quartier Bel Air où, normalement, on ne s'imagine pas qu'on trouve un hôtel. C'est un quartier assez bien, où il y a beaucoup de, où habitent pratiquement 80% d'étrangers de la communauté européenne, des banques et tout ça. Et tous ces gens-là reçoivent chez eux leur famille. Il y a un Suédois qui est marié avec une Irlandaise, ils se marient au Luxembourg, en général chez nous, parce qu'ils font connaissance au Luxembourg. Après, ils auront des enfants, les parents de Suède vont venir ici, les grands-parents d'Irlande vont aussi venir chez nous, les week-ends. C'est un tourisme sans être un vrai tourisme. Mais ça occupe beaucoup. Ces gens arrivent le vendredi, le jeudi soir, restent jusqu'au dimanche, passent les week-ends ici. Les touristes, on en a quand même aussi des gens qui viennent de Bruxelles, parfois avec le TGV aussi de France. Ça, c'est des touristes que nous devons, à mon avis, avec cette période un peu mieux soignée, trouver des gadgets. On a par exemple, on a un multivan. Un minibus très confortable qu'on va mettre à disposition de ces gens tous les week-ends pour les transporter en ville. Mm-hmm. Pas pour faire des circuits, mais c'est inclus dans le prix que quand ils arrivent ici ou quand ils nous disent demain on arrive à samedi, on aimerait bien aller au Moudam. On les emmène au Moudam.
Ils ont leur navette personnalisée.
Il faut faire des petits gadgets comme ça.
Des services, assurer des services complémentaires.
Le service que attractif. Le client, quand il arrive, quand on lui donne une coupe de crayon, ce n'est plus un service.
Pour vous, c'est la routine. Oui, très bien. Il faut qu'on revienne plus souvent chez vous,
oui,
vraiment.
Oui, oui.
Je rassure nos auditeurs, nous avons démarré avec un café. Quels sont les principaux aspects qui ressortent de vos discussions avec vos confrères? J'imagine que vous discutez avec vos collègues patrons d'autres chaînes hôtelières, de restauration. L'Oresca est un secteur très touché. Il n'y a pas que votre groupe. On parle de ces difficultés, j'imagine. Quels sont les projets? Est-ce qu'on envisage peut-être même des coopérations?
Moi, j'avais créé... Les coopérations, c'est compliqué dans le monde entier. Hein. Moi, j'ai créé une société qui s'appelle Luxembourg Tourisme, LT. On pourrait s'imaginer, mais pourquoi est-ce que c'est vous, il arrive, et pourquoi est-ce que ce nom, il est disponible? J'ai créé ça il y a 10, 15 ans, dans l'espoir, déjà à ce moment-là, de faire adhérer à ce Luxembourg Tourisme une dizaine d'hôteliers luxembourgeois, des hôtels avec 50 chambres, avec 20 chambres. Mais malheureusement, il n'y a jamais personne qui s'est rallié. Je les ai même invités à visiter l'association des hôteliers à Fribourg, en Allemagne, où une telle association existe, avec 16 hôteliers. Mais les Luxembourgeois, ils ne voulaient pas. C'est pour ça que ma société Luxembourg Tourisme, elle existe toujours. Elle emploie 3-4 personnes. Elle emploie même 11 personnes aujourd'hui. Mais elle ne travaille que pour moi. C'est pour ça, avec les d'un autre côté, vous avez le grand groupe Accor, qui a 1000, ou il avait à un certain moment 1500 chambres, avec celui de l'Alpha. Et tous les autres, ça fait tout seul.
Alors le gouvernement luxembourgeois fait figure de modèle, de bon élève au niveau européen et même international pour sa gestion de la crise. Comment voyez-vous cet aspect si on se focalise sur la thématique du tourisme? Est-ce qu'il y a des mesures un peu emblématiques qui sont mises en œuvre actuellement et qui vont aider à rendre le Luxembourg et la grande région plus attractifs?
Il y a quelques démarches qui sont en route, hein, mais encore une fois, je dirais, nous-mêmes on fait des efforts pour la ville. Moi, je suis d'avis que celui qui vient à Luxembourg-Ville, il veut découvrir la ville. J'ai difficile à le convaincre, celui qui vient pour 2 jours ou 3 jours ici, j'ai difficile à le convaincre pour aller à Clairvaux ou à Fianden. Il veut visiter la ville. Alors, moi, je fais un effort, ou je ne fais pas un effort, on essaye à lui faire plaisir ici, en lui faisant découvrir les vins, peut-être ici. Mais encore une fois, il faut maintenant convaincre tous les viticulteurs ou l'association des viticulteurs à se rejoindre ici en ville, parce qu'ils veulent que tout le monde vienne à la Moselle. Bien, moi, je veux bien les emmener, même en minibus à la Moselle. Parce qu'aujourd'hui, avec les règles d'alcool, vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un avec sa voiture privée à la Moselle.
Il ne revient pas dormir chez vous.
Non.
L'enjeu, c'est peut-être aussi de faire revenir les gens. C'est de donner une première appétence par la découverte d'un certain nombre de sites et de produits locaux. Et ensuite, peut-être, d'avoir une offre complémentaire pour faire revenir les personnes.
Nous voulons faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec par exemple le petit déjeuner, nous voulons vraiment montrer aux gens nos produits. Et avec ces produits, des produits frais, des produits bio de la ville, du pays, des alentours, et les inciter à découvrir aussi ces régions d'où viennent ces produits. Si quelqu'un peut découvrir un vin chez nous, je l'invite ou je lui fais un accord qu'il aille avec nous en voiture à la Moselle, qu'il découvre les poissons, la friture. Mais à la campagne même, moi je pense les hôteliers, les grands hôtels que moi je connais, par exemple Levesque ou Brima ou Clairvaux ou Fianden, c'est des hôtels qui ont une clientèle classique qu'ils avaient depuis toujours. Et je pense que ces gens-là vont récupérer cette clientèle.
Mais l'enjeu n'est-il pas quand même de chercher de nouveaux clients? Et je me pose la question par rapport à tous ces discours des dirigeants politiques en Europe qui prônent pour cette période, en tout cas estivale qui arrive, de profiter du chez-soi ou du pas loin de chez-soi, hein, d'un tourisme plus localisé. Le Grand-Duché et plus largement la Grande Région bénéficient évidemment d'un environnement touristique plutôt favorable. Je pense qu'on est d'accord. Mais la promotion touristique est-elle à la hauteur, justement?
Ça, vous me demandez une question où je dirais... Je ne veux pas répondre à cette question. Vous m'avez dit s'il y avait quelque chose sur quoi je ne peux pas répondre. C'est une question. Comme ça, je fais.
Eh bien, comme ça, vous aurez utilisé votre joker.
Je ne peux pas le juger parce que, au fait, même en étant membre de Horesca, je suis aussi au conseil d'administration du syndicat de la ville de Luxembourg, du LCTO. C'est difficile à voir. Est-ce que ces gens, est-ce qu'on fait ce qu'il faudrait faire? C'est difficile. Ils doivent donner satisfaction aux commerçants dans la grande rue. C'est difficile à dire.
Ce sont bien sûr des politiques globales qu'il faut engager, mais chaque acteur est responsable aussi. Alors, est-ce que vous avez engagé un travail de communication, peut-être des éléments de langage, des visuels, l'approche expérience client dont on parle aujourd'hui? Est-ce que vous avez une démarche marketing et communication un peu plus dynamique, nouvelle, innovante pour promouvoir non seulement votre offre, mais celle de votre pays et de notre territoire.
Oui, mais là, vous voyez, c'est aussi un effet de cette crise qu'on a eu le temps pendant 2-3 mois de réfléchir à cette question et de constater qu'on est quand même assez mal équipé. On a énormément d'investissements qu'on a fait dans la digitalisation et très souvent on a constaté qu'elle n'est pas toujours utilisée, elle est mal utilisée, que ce soit en comptabilité, que ce soit en gestion, tout plein de gestion, elle est mal utilisée, mais avant tout aussi dans le domaine de la communication, du marketing. On constate aujourd'hui, si vous cherchez une personne qui doit s'en occuper, ben, cette personne qui va se présenter, elle aura 10 compétences. Vous demandez 10 compétences, mais en fait, elle en aura peut-être seulement une ou deux ou trois. Mais vous ne pouvez pas embaucher 10 personnes.
Vous n'êtes pas un peu dur, là?
Oui,
je suis. Il y a quand même de bons professionnels, même de bons jeunes qui sortent de belles écoles.
Oui, je sais. Mais alors, ceux-là doivent apprendre le métier. On a aussi une personne. Mais aujourd'hui, si vous devez maîtriser le social media, vous devez maîtriser la gestion d'un site web, vous devez maîtriser le graphique pour écrire des menus, vous devez faire du marketing, des relations avec la presse, c'est un métier. C'est un métier qu'on n'apprend pas de quelqu'un qui vient de l'école à 21 ans. Hein, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà sur le tapis depuis une dizaine d'années, qui doit connaître les liens au Luxembourg, qui doit savoir qui a à dire quoi chez PayPal Jam ou le Luxembourg Award, tout ça. Ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, vous avez les social media, vous en avez qui sont très forts en web et qui ne connaissent rien en Instagram. Alors, moi, j'ai non-stop des appels qui me disent « ça ne m'a pas plu », des clients. Ça ne m'a pas plu. Pourquoi tu ne fais pas ça? Je dis, on ne peut pas tout.
C'est vrai que ça nécessite de construire des politiques éditoriales, d'avoir.
C'est un domaine où on doit travailler dessus. C'est une leçon qu'on a prise. On est en train de travailler dessus.
Eh ben, nous vous mettrons en contact avec de très bons professionnels, cher monsieur. J'en viens plus précisément à la question du fait transfrontalier, si vous êtes d'accord. On a dit plusieurs fois le mot. Grande région. Grande région égale coopération transfrontalière. Quel est votre avis, votre vision de cet espace de la grande région qui d'ailleurs n'a pas de vrai nom pour faire du tourisme et faire de l'attractivité? Ce n'est pas forcément génial. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve. J'aimerais bien offrir. Il faut offrir. Il faut que nous, on soit des créatifs. Ce n'est pas la LCTO de la ville de Luxembourg, ni la LFT. Pour le pays qui va faire de la pub pour Nancy. Mais moi, je suis d'avis que nous devons promouvoir, nous ici, moi en tant que groupe, promouvoir un produit où je dois mettre dans ce programme quelqu'un qui vient de Manchester ou de n'importe où avec Ryanair ou de Toulouse en avion. Je dois lui offrir un produit plus complet que la ville de Luxembourg. Et ce n'est pas tout le monde qui veut aller au musée ni à l'opéra et tout ça. Et en plus, en été, vous n'avez pas d'opéra ni de concert, mais nous avons autre chose. Moi, je peux absolument recommander un trajet à Nancy. Nancy mérite, si on connaît Nancy, avec l'architecture, c'est fantastique. Hein? On peut envoyer les gens à Metz, on peut les envoyer à Trèves. Ça veut dire que ça fait un paquet de 3-4 destinations où le client il peut rester 3-4 jours. Et je peux aussi m'en occuper peut-être encore une fois de l'emmener là-bas et de le reprendre. Je peux l'envoyer en train. Hein? Si je vous c'est notre démarche que nous, en tant qu'hôtelier, que nous devons faire.
Si je vous écoute bien, si je vous comprends bien, c'est un travail à faire et qui aujourd'hui ne serait pas vraiment fait.
Non, à mon avis, il n'est pas fait.
Et vous le,
si nous, on
vous
le, fait,
le regrettez.
Si nous, c'est pour ça que je dis aussi la partie marketing. Si nous, on met sur notre site, on dit, voilà, on peut offrir un week-end Luxembourg. Dans ce week-end, vous avez une excursion à Nancy. Mais je ne dois pas seulement dire on fait une excursion à Nancy. Il faut aussi s'en occuper. Il faut dire comment est-ce que le monsieur il arrive à Nancy. Hein? Et si je dis à Trèves, il doit aussi. Ça veut dire que je dois m'occuper de tout. Je dois aussi peut-être lui réserver un joli restaurant à Nancy. Hein? Et on a cette région, vous avez parlé grandes régions, on a des lieux qui sont vraiment fantastiques. On en parle, quand je regarde les nouvelles à Paris, je regarde TV5 ou n'importe quoi, on en parle de Nancy comme si c'était une perle en France. Et nous, on n'en profite pas. C'est dommage.
Comme Luxembourg est une perle pour les Français, et les Nancéens n'y vont que très peu également. Je pense que ça va dans tous les sens.
Et on a un aéroport où il y a Ryanair et tout ça. Les gens arrivent ici, ils n'arrivent pas à Nancy. Ils arrivent ici, ils viennent visiter une capitale de l'Europe, mais qu'on leur montre un peu tout le reste. On a une fortune autour, mais il faut l'organiser. Ça, c'est du marketing, mais il faut aussi l'organiser.
Il faut l'organiser. Donc, pour vous, le fait transfrontalier est un vrai gage d'attractivité
absolument
pour vos métiers dans l'hôtellerie, la restauration et bien d'autres.
Moi, j'ai plus plaisir, il ne faut pas le dire trop fort au Luxembourg, mais tout le monde le sait.
Ce ne sera pas répété.
J'ai plus plaisir d'envoyer quelqu'un à Nancy. Il a plus à découvrir à Nancy. Je ne veux pas citer d'autres endroits, mais là, vraiment, je peux lui dire, tu peux passer une journée à Nancy.
C'est drôle, vous avez dit Nancy 3, 4, 5 fois, vous n'avez jamais dit Metz.
Metz aussi, parce que Nancy, c'est... Nous, on connaît plus Nancy parce que c'est plus... Si on a regardé toute l'architecture, on a regardé les musées, je ne vois pas de musée à Metz. Et à Nancy, il y en a...
Pompidou, Centre
Pompidou,
le Pompidou, Metz,
d'accord.
Vous savez, le petit bâtiment, là, qui...
Oui, le Pompidou aussi. Je l'ai mentionné. J'ai mentionné Nancy, j'ai mentionné Metz, et j'ai mentionné Trèfle.
Et on ne parle donc jamais de la Belgique.
Je ne vois pas directement. Il y a Belgique, il y a comme grande ville, il n'y a rien directement ici dans les parages.
Est-ce que l'attractivité passe fatalement par la grande ville?
Oui. La Belgique, il y a des endroits qui sont fabuleux, mais c'est plutôt à la campagne. Que je pourrais à Turbuy, la plus petite ville du monde.
On va bientôt arriver à l'issue de notre entretien. Déjà, c'est passionnant de vous écouter, Marcel Guérès. Quel message est-ce que vous auriez envie de passer à nos gouvernants en grande région pour que le fait transfrontalier, on voit bien que vous critiquez quelques aspects de ces politiques, puisse mieux servir votre activité et plus globalement le développement de l'économie de notre territoire en grande région?
Mais quand je parle de tourisme, je pourrais m'imaginer qu'on ait, sans avoir de nouveau des bureaux hautement sophistiqués, quand même une organisation, peut-être du point de vue touristique, en ce qui concerne grande région, pas seulement l'économie, mais du point de vue touristique, un meilleur échange, une meilleure organisation. Parce que si moi je vous dis ce que je veux faire, ce que je rêve avec ces villes, moi, je pense que ça pourrait être mieux organisé aussi que les hôteliers de Nancy puissent en profiter, ou que peut-être d'autres hôteliers au Luxembourg puissent en profiter, que cette grande région, du point de vue tourisme, obtienne une plus grande attention.
Marcel Guérès, pour finir, pour nos auditeurs qui sont toujours friands de beaux témoignages comme le vôtre, j'aimerais vous demander deux petites choses un peu plus personnelles, si vous en êtes d'accord. Vous avez encore un joker, évidemment, si vous ne souhaitez pas répondre. Quel est le meilleur souvenir de votre carrière, de votre parcours professionnel, en quelques mots?
Oh, vous savez, c'était toujours... dans un certain moment, quand vous l'avez dit, la natation, être champion ou j'ai participé au championnat d'Europe, c'est toujours une réussite, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir. Chaque réussite fait plaisir. Chaque. D'avoir créé un hôtel, moi ça me fait plaisir de voir 139 personnes à un certain moment, on en avait 150. On avait même le château de Schengen à un moment, que malheureusement les sœurs ont dû vendre, ça veut dire maintenant il est à l'abandon. Même ouvrir le château de Schengen, je vous dis, nos employés, ils ont rêvé de faire ça. C'était formidable. Ça, c'était encore une fois grande région. Parce qu'à Schengen, on a avant tout fait des mariages pour les Français. Et c'était vraiment un succès.
Monsieur Guérès, si vous aviez la possibilité, là, tout de suite, de réaliser l'un de vos rêves les plus chers, je sais bien que vous en avez déjà réalisé quelques-uns, et des rêves fous parfois, quel serait-il?
S'il vous plaît.
Votre rêve le plus cher, celui que vous auriez envie de vivre?
Maintenant, je pense de recréer une structure, une entité 2021, comme je vous l'ai cité, ensemble avec mes gens. Et il y a sûrement des gens qui sont de trop, partout. Et j'aimerais bien les garder aussi longtemps que possible, en ne sachant pas ce qui va se passer. Et si je dois me séparer de quelqu'un, j'aimerais bien le faire ensemble avec lui. Et c'est ce que j'ai aussi dit, même dit chez nous au ministère. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui soient en chômage partiel toute leur vie, et en sachant qu'un jour, ils vont quand même ne plus être utiles. Alors, autant parler avec eux et les transmettre peut-être à quelqu'un à côté qui en a besoin. Un jour, un dimanche, il y a 3 semaines, le même dimanche, j'ai eu 2 appels d'hôteliers qui m'ont demandé « Est-ce que tu n'as pas un cuisinier ?» Un 3e appel qui m'a dit « Est-ce que tu n'as pas un pâtissier ?» J'ai dit « Effectivement, j'ai tout ça, mais ils sont au chômage partiel. » Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut être franc, il faut mettre ces gens, leur dire « Écoute, chez nous, malheureusement, aujourd'hui, ça ne marche plus, ou c'est moins, ou on ne fait plus ça. »
Mais on
il
ne
faut pas rêver les gens qui, avec la digitalisation et comme je l'ai dit, la disponibilité, dans le temps, un réceptionniste, je prends un réceptionniste, il ne faisait que la réception. Et il avait 4 heures par jour, il n'avait rien à faire. Moi, je le dis à tout le monde aujourd'hui, je ne veux plus, et ce n'est pas dans leur intérêt, d'avoir des gens qui ont plusieurs heures par jour, n'ont rien à faire. Ça ne doit plus exister.
Marcel Guérès, merci infiniment de nous avoir accueillis dans l'un de vos magnifiques hôtels. On peut trouver tous vos lieux d'hôtellerie, de restauration, de convivialité sur votre site internet www.guéreshotels.com. C'est du marketing. On vous souhaite une très belle saison. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve bientôt pour de nouveaux témoignages qui nous parleront d'économie et de grandes régions et toujours aussi passionnants comme aujourd'hui avec Monsieur Marcel Guérès. Merci encore à vous. D'ici là, portez-vous bien. Soyez heureux. À bientôt.